Chers fidèles, lorsque l'on cherche parmi les différents textes qui nous sont donnés par la liturgie dans une messe, quel est le texte principal, celui qui va nous donner en quelque sorte tout l'esprit de cette fête, dans lequel nous allons trouver la grâce que l'Église veut que nous demandions à l'Église, il nous faut ouvrir notre missel à l'oraison, qu'on appelle encore la collecte. C'est là qu'est résumé tout l'esprit d'une fête. D'ailleurs, les prêtres et les religieux qui sont tenus à l'office divin, à la récitation du bréviaire, récitent à toutes les heures de la journée cette prière. Elle est un peu comme un refrain dans la prière des âmes qui sont consacrées, plus spécialement dans l'Église, à la prière. Or, que nous dit cette collecte, cette oraison de l'Ascension ? Regardons juste la fin. Ut ipsi mente in celestibus habitemus. Pour que nous-mêmes, en esprit, nous habitions dans les cieux. Habiter dans les cieux en esprit. Voilà la grâce que l'Église veut que nous demandions aujourd'hui. Et la première question qui se pose à nous, avant d'habiter dans les cieux en esprit, qu'est-ce que le ciel ? Le ciel se définit ainsi, c'est un lieu, plutôt un état, de bonheur parfait que Dieu réserve à ceux qui l'ont servi ici-bas fidèlement, qui sont morts en état de grâce, c'est-à-dire dans son amitié. Pour décrire ce bonheur surabondant que Dieu réserve à ses élus, on emploie encore les termes de vie éternelle, de fin suprême de l'homme, de béatitude céleste, de souverain bonheur. Saint Thomas, lorsqu'il cherche en quoi peut reposer ce souverain bonheur de l'homme, se place tout de suite au niveau de la perfection de l'homme. L'homme ne peut être heureux qu'en tant qu'il atteint sa perfection, qu'il atteint ce pourquoi Dieu l'a fait. Et en effet, le bonheur que Dieu nous réserve est un bonheur qui parachèvera complètement notre nature, qui l'achèvera totalement. Tous nos désirs les plus légitimes seront complètement assouvis. Saint Thomas, dans un deuxième temps, se pose ensuite la question : quel bien va t'apporter ce bonheur parfait ? Il regarde autour de lui, regarde un petit peu ce que les hommes recherchent comme bonheur ici-bas, et par élimination, va un peu déterminer quel est le vrai bonheur de l'homme. Suivons un petit peu son cheminement, et nous aussi passons en revue tous ces biens que les hommes recherchent. Premièrement, les richesses. Qu'elles soient naturelles, comme la nourriture, le logement, les biens d'ici-bas, ou encore artificiels, comme l'argent, la monnaie, ou tout ce qui cherche, tout ce qui permet de faire des échanges entre les hommes. D'ailleurs, un proverbe tiré de la Sainte Écriture dit bien que tout obéit à l'argent. Et l'histoire des siècles est là pour confirmer ce proverbe. Cependant, comme le remarque très justement Saint Thomas, si dans les choses matérielles, en effet, tout obéit à l'argent, c'est uniquement pour ceux pour qui il n'y a que les choses matérielles qui comptent, et Saint Thomas appelle ces gens-là des sots. Et il ajoute finement que les gens sensés ne règlent pas leur jugement sur celui des sots. Deuxième argument pour nous montrer que le bonheur n'est pas dans les richesses, c'est qu'on n'arrive jamais à satiété, on en veut toujours davantage. Les anciens païens avaient déjà noté cela, c'était auri sacra fames, cette soif détestable de l'or. Et puis le bon sens ajoute très justement, on n'a jamais vu un coffre-fort qui suivait un corbillard. Ce n'est donc pas dans les richesses que nous trouverons le bonheur. Il nous faut passer au bien suivant. Deuxième bien, les honneurs, la renommée, la gloire. Cependant, ce n'est pas encore là que nous trouverons le bonheur, car lorsque l'on donne des marques d'honneur à quelqu'un, c'est parce que l'on reconnaît en lui une certaine excellence dans un certain domaine. Mais ces marques d'honneur, si elles reconnaissent une excellence, elles ne la créent pas, elles ne la procurent pas. Et d'ailleurs, nous remarquons que très souvent, des marques d'honneur sont rendues à des gens qui ne les méritent pas, chez qui cette excellence n'existe pas. Pensons à toutes ces légions d'honneur qui sont distribuées à tort et à travers, ça n'a plus aucun sens. C'est ridicule. Troisième bien auquel il nous faut maintenant, vers lequel il nous faut maintenant tourner nos regards, le pouvoir, l'exercice de l'autorité. Mais là encore, nous n'y trouverons pas le bonheur. L'autorité, l'exercice de l'autorité se définit comme un principe d'action. On est chef, non pas pour soi, mais pour les autres. C'est pour conduire les autres, les mettre en action vers une fin donnée, vers un but. Or, cette béatitude céleste à laquelle nous sommes appelés est un repos. Ce n'est pas une action. Et d'autre part, le pouvoir, nous le voyons très bien aujourd'hui, s'exerce tant dans le bien que dans le mal. Et la béatitude ne concerne que le bien. Il nous faut encore passer notre chemin. Ce n'est pas là que nous trouverons le bonheur. Nous venons de voir un petit peu tous les biens extérieurs à l'homme, les richesses, la gloire, le pouvoir. Il nous faut maintenant nous intéresser aux biens qui nous sont plus internes, ceux de notre corps et ceux de notre âme. Dans notre corps, nous pouvons distinguer deux biens, la santé et le plaisir. Commençons par la santé, auquel il faut ajouter la force physique et la beauté. Et bien sûr, si ce n'est pas une erreur de rechercher la santé de notre corps, c'est un bien appréciable qui nous permet de pratiquer beaucoup d'autres biens, c'est une erreur regrettable d'y mettre toute sa perfection. Toute notre perfection n'est pas dans notre corps. Il y a en nous un autre élément, notre âme, qui est très supérieur à notre corps, et qui précisément nous distingue des animaux. Les gens qui ne recherchent que la perfection du corps sont un peu semblables à des animaux. Et d'ailleurs, que sert la santé du corps si l'on n'a pas la santé de l'âme, l'état de grâce? Que sert la force physique si l'on n'a pas cette force d'une volonté unie à Dieu? Et qu'est-ce que la beauté d'un corps comparée à la beauté d'une âme en état de grâce, qui est revêtue de la beauté même de Dieu. Après la santé vient le plaisir. Et là, c'est la grosse erreur de l'islam. Les musulmans n'ont pas imaginé un autre ciel, un autre paradis, qu'un immense lieu de débauche, où tous les plaisirs des sens sont fournis à ceux qui, soi-disant, arrivent au ciel. C'est également aussi ce que recherchent nos contemporains. Il n'y a que le plaisir qui compte. Quand on écoute les conversations des gens dans la rue, sans aller jusqu'au péché, dans ce qui est le plus honnête, qu'est-ce hors loisir, voyage, sport? Il n'y a que cela. Et pourtant, cette volupté des sens n'est que la délectation de la partie la plus infime en nous. Délectation qui, plus est très éphémère, et le plus souvent, elle est suivie d'un amer regret, car elle n'est pas ordonnée à Dieu. Elle est en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas dans les biens du corps que nous trouverons notre bonheur. Restent les biens de l'âme. Les vertus. Et à première vue, cela pourrait paraître raisonnable. En effet, seuls les hommes vraiment vertueux sont heureux. Mais là encore, Ce n'est pas la vertu elle-même qui va nous apporter le bonheur. On s'en rend facilement compte parce que les vertus sont faites pour autre chose, ce sont des moyens. La force, par exemple, est faite pour réaliser un bien ardu. La justice nous permet de régler les dettes, nos dettes, de créer ce qui est juste. Et puis, de toute façon, tout ce qui est dans notre âme est fini. Nous ne sommes pas infinis. Or, nous sentons bien que notre volonté, nos aspirations les plus intimes, se portent vers l'infini. Nous ne sommes jamais heureux, vraiment heureux ici-bas. Le seul fait que, lorsque nous goûtons un bonheur ici-bas, nous savons que nous allons le perdre, que cela va se terminer, suffit à gâter ce bonheur. La seule chose qui nous rend heureux, qui nous rendra heureux, est un bien infini. Et ce bien infini n'est autre que Dieu. C'est ainsi qu'on peut vraiment comprendre cette sentence de saint Augustin. Fecisinos atte domine et irrequietum escor nostrum donec requiescat in te. Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est dans l'inquiétude, tant qu'il ne se repose pas en vous. Maintenant que nous savons ce qu'est le ciel, Dieu, comment habiterons-nous dans le ciel? Eh bien, de tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons facilement conclure que habiter en esprit dans le ciel ici-bas consiste principalement dans un double mouvement. Premier mouvement, se détourner des créatures, aversio a creatura, aversio, une aversion, se détourner. Premier mouvement. Et deuxième mouvement, une conversio, une conversion, se tourner vers, conversio ad Deum, se tourner vers Dieu. Double mouvement, c'est comme ça que nous habiterons dans le ciel. Et ce double mouvement qui se détourne des créatures et s'attache à Dieu est le propre de la vertu d'espérance. Cette oraison que nous récitons aujourd'hui nous invite donc à vivre d'espérance. Et notons bien que c'est l'espérance est bien propre à nous détourner des choses d'ici-bas. L'espérance nous montre le bonheur qui nous attend au ciel. C'est un petit peu comme lorsqu'on compare la flamme d'une allumette et la lumière du soleil. Il n'y a pas de comparaison entre les deux lumières. Le soleil, c'est Dieu. La flamme de l'allumette, ce sont les créatures d'ici-bas. Et voyez, cette vertu d'espérance est perfectionnée par un don du Saint-Esprit qui est le don de science. Ce don de science va nous aider à voir les créatures sous leur vrai jour. Double jour, un petit peu comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Quel est le côté pile des créatures? Elles ne sont pas Dieu. Elles ne sont pas Dieu. Et si l'on reprend le langage de saint Augustin dans les Confessions, toutes les créatures nous disent « Je ne suis pas Dieu. Je ne vous apporterai pas un vrai bonheur. Détournez-vous de moi. » Ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est que toutes les créatures ont été créées par Dieu. Et donc, en tant que nous servons des créatures pour aller à Dieu, elles sont un moyen pour nous pour aimer davantage le bon Dieu. Et là, toutes les créatures nous disent « Je ne suis pas Dieu, mais ce que je suis, je le tiens de Dieu. C'est lui qui me donne en ce moment d'exister. » L'espérance va également nous détacher de nous-mêmes. Ce bien que nous recherchons est un bien infini. Il est hors de proportion avec nos propres forces. La seule solution pour avoir ce bien, c'est la prière. La prière et agir, observer les commandements de Dieu, mais là encore, sans la prière, on ne peut pas faire les commandements de Dieu. Et donc l'espérance va nous mettre dans une profonde humilité. Et puis surtout, l'espérance va nous faire beaucoup penser au ciel. Et pour cela va être un grand secours dans les difficultés. Elle nous apportera la joie, car elle est une attente certaine, assurée du ciel. Un petit exemple de cette vertu d'espérance. Nous sommes en Chine, au XIXe siècle. La persécution contre les chrétiens bat son plein. Cinq chrétiens, cinq chinois qui s'étaient convertis, ont été capturés par les autorités païennes. On a dressé sur la place de la ville une grande estrade, cinq billots de bois sur lesquels vont être décapités à coups de hache ces cinq chrétiens. On a placé la tête des chrétiens sur les billots et le bourreau commence son office. Une tête tombe, une deuxième, une troisième, une quatrième. Une petite vieille qui se tient dans les rangs des spectateurs voit à chaque fois qu'une tête tombe une couronne qui monte au ciel. Malheureusement, le cinquième chrétien apostasie, retire sa tête et renie le Christ. La petite vieille qui voit cette place de libre accourt vers l'estrade, monte et pose sa tête sur le billot en disant « Moi aussi, je veux mourir en chrétienne. » Le bourreau, un peu interdit, ne sait quoi faire. Il regarde le juge qui lui fait signe de trancher la tête. La hache s'abat, la tête vole et une cinquième couronne monte vers le ciel. Vous voyez, cette espérance, elle a été attirée par cette récompense du ciel. Bien sûr, dans le martyr, il y a plus que l'espérance. Il y a la charité. Mais on n'arrive pas à la charité sans l'espérance. Pour nous, quel sera le signe que nous vivons d'espérance? Les petits sacrifices que nous faisons dans nos journées. Cette facilité que nous avons ou non à nous détacher du sensible, à nous détacher des biens d'ici-bas. Quand on lit la vie d'Anne de Guigné, cette petite fille morte à 10 ans, qui a pratiqué des vertus héroïques, on est surpris en voyant, elle avait un cahier dans lequel elle notait tous les jours, avec des petites barres, les pénitences qu'elle accomplissait, les petits sacrifices qu'elle faisait. Plus les jours passent, les années passent, et plus les bâtons sont serrés dans les cahiers. C'est des dizaines et des dizaines de bâtons qu'on voit chaque jour. Alors pour nous, la question qu'il faut nous poser, à quand remonte ma dernière pénitence? Combien de pénitences j'ai fait hier, avant-hier, ce mois-ci? Est-ce que j'ai à cœur de faire des petits sacrifices pour le bon Dieu, de me couper des choses d'ici-bas pour conquérir cette couronne au ciel que Dieu m'a préparée? Et voyez-vous, cette vertu d'espérance doit, dans notre vie, poser une hiérarchie. En premier, ma vie de prière. Ensuite, ma vie sacramentelle. Comment je reçois la communion? Comment je me confesse? Tous les combien? Mes lectures spirituelles. Les efforts que je fais pour acquérir telle ou telle vertu. Et c'est un petit peu à ça que l'on voit si l'on prend la route du ciel ou non. Ou bien alors, dans le cas contraire, est-ce que je suis en train de m'installer ici-bas, de chercher mon bonheur dans les créatures qui ne peuvent me donner mon vrai bonheur? Nous demanderons donc pendant cette messe à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de la Sainte Espérance, de vraiment nous convertir et de nous convertir tous les jours. C'est tous les jours qu'il nous faut prendre ce chemin du ciel. C'est tous les jours qu'il nous faut nous détourner des créatures et nous tourner vers Dieu. Que notre bonne Mère du ciel nous aide donc à gravir cette échelle qui nous mène au ciel et qu'elle nous donne elle-même cette couronne, la couronne du ciel que Dieu nous a préparée. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.